Je ne sais pas si vous essayez souvent de partager votre foi avec des incroyants. Si vous avez plutôt le désir d'être un agent secret pour Christ, ou est-ce que vous parlez de votre foi publiquement ou dans les conversations, naturellement, il ne s'agit pas de faire quelque chose de bizarre, mais par exemple demain, quand on vous dit comment s'est passé le week-end, vous pouvez dire on a eu un bon temps de communion fraternelle à l'église qui se trouve au 10 de l'avenue Aimé Martin de Magnan, du quartier de Magnan. Et c'est fou, si vous êtes prêt à donner un peu d'informations comme ça, rapidement vous allez savoir comment les gens se situent. Il y en a qui vont tousser, qui vont s'éloigner de vous, vous direz « bon, ben, c'est pas pour eux ». Puis d'autres vont dire « ah bon, qu'est-ce que tu crois ?» Et une de ces façons, et c'est pas nécessairement une façon qui est la bonne pour tout le monde, certains ont plaisir à le faire, d'autres c'est la chose la plus terrible qui puisse être, que d'aller aborder des gens dans la rue et leur parler, leur offrir un traité, leur offrir de faire un sondage avec eux. Souvent, c'est rejeté parce que, d'abord, il y a une part de fierté spirituelle de ceux qui font ça en pensant qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est bien sûr pas le cas. Souvent, c'est parce qu'on n'a jamais essayé de le faire. Et je tiens à vous inviter, si vous n'avez jamais fait ça, il y a des personnes comme Mitch et Christine qui font ça régulièrement. C'est un peu leur raison d'être. Et d'autres, Paul et son équipe font aussi souvent cela. C'est intéressant parce que ça vous oblige à vous poser des questions sur ce que vous croyez, comment les présenter. Cette semaine, on n'a pas pu aller à la fac comme on aime bien le faire le vendredi, mais on s'est dit avec mon partenaire dans le crime, Rodlan, on a dit, tiens, on va aller faire distribuer des traités sur la promenade des Anglais. Il faisait frais, il y avait du vent, mais on a pu avoir des conversations, et en particulier une conversation très, très frustrante, dans le sens où on est tombé sur une personne qui peut-être écoutera ce message, et je la salue, une personne tout à fait respectable et sympathique, mais qui avait des croyances assez, assez bizarres. Et cette personne se référait aux croyances de l'Égypte antique, en disant que c'était là qu'était la vérité. Et j'étais un peu transi par le froid, et j'avais du mal à bien réfléchir. Rodlan, au contraire, a arrivé à bien discuter, à bien accrocher la conversation, en ne se laissant pas mener en bateau. Mais quand je suis rentré chez moi, que j'ai pu me réchauffer un peu, j'ai dit, mais en fait, c'était tellement évident ce qu'il fallait. Il fallait lui parler de Moïse, qui avait reçu toute la sagesse des Égyptiens, et qui n'était pas là à dire qu'en fait, on avait l'étincelle du divin en chacun de nous, qu'on était nous-mêmes créateurs. Je reprends certains des arguments. Mais en fait, lui montrer que Moïse avait annoncé Jésus, il avait prédit, il avait reçu les tablettes de la loi, et en fait, la sagesse des Égyptiens, elle leur avait servi à rien, puisqu'ils avaient été... La civilisation égyptienne avait disparu des livres d'histoire, même s'il y a un pays qui s'appelle l'Égypte, qui par certains aspects a bien des mérites. Mais c'est l'idée du témoignage, l'idée de parler de ce que nous croyons et de ce qui nous anime. Une autre façon de répondre à ce genre de propos, et en plus quand on discute avec ces gens, on a l'impression que les contours de leur croyance sont polymorphe, qu'elle bouge en même temps qu'on discute avec elle. Et ce qu'il venait de dire, en fait, il ne l'affirme plus, mais il y a autre chose. Et je prie que cette personne puisse venir à la connaissance de la vérité. Et encore une fois, c'est pas pour dénigrer cette personne. Je la remercie même d'avoir poussé nous avoir poussé un peu dans nos retranchements. Et bien sûr, quand ces personnes vous parlent, elles rejettent a priori la Bible. La Bible n'est plus une parole d'autorité. Mais une autre remarque que j'aurais pu faire à cet homme, c'est de dire qu'il y a deux choses essentielles pour pas tomber dans la folie. La première, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et deuxième chose, c'est de savoir que ce Dieu, c'est pas vous. Parce que lorsque les gens commencent à vous dire qu'ils sont leur propre créateur, propre Dieu, on sait qu'on va pas aller bien loin. On peut parler de tout et de rien. Et en fait, j'ai regretté, j'avais pas de petit évangile de Jean sur moi à donner. On avait des Bibles entières, on avait d'autres documents, des traités. Mais encore une fois, ce livre nous a été écrit. Nous l'avons reçu parce que il est le livre qui nous aide à croire. Jean 20, 30, donc dans l'évangile de Jean lui-même, il y a la raison pour laquelle ce livre a été écrit. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes. C'est un autre terme pour des miracles. C'est des signes parce que ces miracles nous montrent que Jésus est Dieu, qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Le Messie, c'est celui qui a été oint, c'est celui que les Juifs de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament attendaient. Le Fils de Dieu, première chose, Jésus, c'est le Messie attendu, le Fils de Dieu. Et deuxième chose, en croyant, vous avez la vie en son nom. Et on a déjà parlé de l'évangile de Jean la semaine dernière, on l'a présenté, on l'a introduit, on a fait l'introduction. Là, on va regarder ce qui est communément appelé le prologue. Le prologue, c'est un peu comme dans une symphonie, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de musique classique, mais sans être spécialiste, on peut avoir entendu parler de ce que c'est qu'une ouverture. Une ouverture, c'est un morceau qui introduit, qui présente pour la première fois des thèmes musicaux qui vont être repris sous diverses formes, par divers instruments, avec différentes intensités. Et c'est un peu un échantillon de ce qui va être dit par la symphonie, ou ce qui va être communiqué par la symphonie. Et le prologue, c'est ce qui est dit avant, c'est un peu l'introduction. Et là, on va voir que des thèmes qui vont être développés en profondeur dans l'évangile de Jean sont déjà annoncés. On va parler de la parole, de Dieu, du commencement, de la création. Dieu, Jésus est Dieu, on va le voir. Il est le créateur, il est notamment le créateur de la lumière et de la vie. Ce sont des concepts qu'on utilise sans arriver bien sûr à les cerner, à les comprendre complètement. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la lumière ? Ce sont des thèmes qui sont annoncés dans ce prologue et qui vont après être repris avec les cymbales, les violons, du reste de cet évangile. La lumière, une chose très mystérieuse que la lumière. Il y a à la fois une qualité d'onde et en même temps une qualité de corpuscule. La mécanique ondulatoire sont des choses où les plus grands esprits se sont confrontés à ça. Il y a des théories, mais ça reste quelque chose encore de mystérieux, la lumière. Le monde, il va être question du monde, du fait que on peut accueillir ou rejeter Jésus-Christ. Certains disent qu'en fait l'idée de demander aux gens de s'engager à recevoir Jésus-Christ n'a pas de fondement biblique. En fait, on va voir qu'il y a des raisons, que dans ce passage, il est question de recevoir Jésus-Christ ou de le rejeter. Et on va parler aussi du fait que si on croit en lui, on a la vie éternelle et on a le droit de devenir des enfants de Dieu. Et en parlant avec cette personne que j'ai évoquée en début d'intervention, il y a certains qui pensent qu'on est tous divins, qu'on a tous l'étincelle du divin en nous. Et quelque part, c'est vrai, Dieu a créé tous les hommes, c'est lui qui nous crée, même si nous sommes nés d'une mère et d'un père. Est-ce que vous êtes nés d'un parent 1 et d'un parent 2? Notre société dérape complètement. C'est pas dans le texte, mais c'est un sentiment d'écœurement, de lassitude. Mais on peut devenir enfant de Dieu. On ne l'est pas tous enfant de Dieu. Jésus dira même que certes, on est soit enfant du diable, soit enfant de Dieu. Et on n'aime pas l'idée d'être appelé enfant du diable. Je ne crois pas que j'aurais pas eu le courage, peut-être parce qu'il avait l'air assez costaud, de dire à cet homme qu'en fait il n'était pas enfant de Dieu, il était enfant du diable, s'il ne connaissait pas Jésus. Mais c'est la vérité. C'est lourd, c'est dur. Mais c'est ce que nous allons voir en approfondissant les thèmes du prologue. Et puis on va voir qu'en fait, la chose incompréhensible, c'est que le Dieu créateur de toutes choses, il a pris un costume d'homme. Il s'est revêtu d'un scaphandre d'homme pour vivre sur cette terre. Nous aurons à avoir un nouveau corps pour vivre dans l'éternité. Certains ont du mal, bien sûr, moi aussi, avec la doctrine de la Trinité, l'idée qu'il y a un homme en trois personnes, un Dieu, pardon, unique en trois personnes. Mais là aussi, c'est explicité, c'est réaffirmé, c'est indiqué. Et on verra que Philippe demandait à Jésus de lui montrer le Père et Jésus répondait à Philippe, « Comment se fait-il que tu me connais et tu me dis que je te montre le Père ?» En fait, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y avait cette intimité, cette identité entre le Père et le Fils. Et puis, le Saint-Esprit est introduit aussi. Mais on va lire ensemble ce fameux prologue. Je vais vous demander de vous lever. On l'a déjà lu la semaine dernière, mais ça vaut la peine d'être relu et relu. Je lis dans la version second 21 qui nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il introduit Jean-Baptiste en disant « Il y eut un homme, verset 6, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. » Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui à propos duquel j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen, vous pouvez vous rasseoir. Au commencement, on a souligné des différences entre les différents évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc et Luc, et l'évangile de Jean. On a signalé qu'ils avaient différents points de départ dans le récit de la vie de Jésus, de cette bonne nouvelle de la vie de Jésus, et que celui de Jean, en fait, il se plaçait sur un point de vue très spirituel et un point de vue éternel. Au commencement, la parole existait déjà, ça doit vous rappeler les premiers mots de la Bible dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu placé au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et puis il continue avec la description de la création de l'univers. Et là, Jean, en écho, explique au commencement la parole existait déjà. Et il a cette phrase fantastique, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc il y a ce mot de parole. J'ai déjà parlé de Christ et pour bien faire, on devrait faire abstraction même de ce qu'on sait, parce que plus loin dans le texte qu'on a lu, il est question très clairement que cette parole, c'était Jésus-Christ. Le mot en grec que Jean utilise, qui est traduit ici par la parole, d'autres fois c'est traduit par le verbe, c'est le mot « logos ». Logos, c'était un concept qui était familier aux Juifs, mais aussi aux païens. Pour les Juifs, c'était la parole qui avait mis en existence l'univers. pour les Grecs païens, le logos, c'était la raison qui était derrière la création, derrière le monde tel qu'il était. Et ces païens avaient au moins l'honnêteté de reconnaître qu'il y avait une intelligence derrière le monde. Aujourd'hui, les gens essayent de faire abstraction d'une intelligence en mettant tout sur le compte du hasard. Les choses se sont mises en place par hasard. Et conscient de la faiblesse de ce concept, de penser que les choses complexes arrivent par hasard, ils ont recours à une autre dimension de l'équation, le temps. Ils reconnaissent que c'est très peu probable qu'on crée un A380 en faisant exploser une ferraille, un magasin de ferraille. Mais, d'accord, c'est très peu probable, mais si on met des millions et des milliards d'années, à ce moment-là, tout devient possible. Pourquoi qu'à un moment donné, il n'y aurait pas des pièces qui se seraient mises ensemble et qui auraient, avec cette explosion, se seraient retrouvées en tant qu'un avion hautement sophistiqué. Et lorsqu'il parle aux Grecs du logos, il a leur attention. Le vocabulaire de Jean est un vocabulaire simple. Il n'est pas simple au point d'être faible, mais il est réduit en nombre de termes. Il n'y a à peu près que lorsqu'on regarde l'évangile de Jean ou les lettres de Jean, il y a un vocabulaire d'à peu près 600 mots. Quand on étudie le grec, le premier texte qu'on étudie, c'est la première lettre de Jean, parce que le vocabulaire est restreint. Paul a un vocabulaire beaucoup plus complexe, des phrases interminables qu'il faut analyser pour voir où est le verbe et le sujet. Mais Jean, il s'explique simplement. Et 600 mots, c'est à peu près le vocabulaire d'un enfant de 8-9 ans. Et je disais la dernière fois qu'il y a des choses très profondes qui sont révélées dans l'évangile de Jean, mais qu'un enfant peut patauger dans l'évangile de Jean, comprendre plein de choses, et qu'un grand théologien peut aussi passer toute sa vie à essayer de comprendre tout ce qui est dit, et personne n'arrivera à terminer d'expliquer ce merveilleux évangile. Et ce qui me frappe, c'est que Jean, animé par l'Esprit Saint, il sait que pour toucher son auditoire, et c'est un auditoire à la fois de Grecs et de Juifs, c'était la composition du monde, on était soit juif pour les Juifs, soit si on ne l'était pas, on disait qu'on était grec. On était non-juif. Il arrive à communiquer avec des termes qui ont un écho dans chacun de ces groupes. Et lorsque vous parlez de Dieu avec vos amis, vos parents, il est bon d'essayer de trouver des termes qu'ils vont comprendre. Si vous êtes dans l'informatique, vous pouvez parler du fait qu'on a besoin d'un changement de disque dur, que notre vieux disque dur, il a des bugs. Et je vous invite à essayer d'exprimer des vérités bibliques dans un langage qui, sans déformer la vérité biblique, peut parler aux gens qui vous entourent. Une petite parenthèse, le logos. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Une autre façon de traduire le grec utilisé, c'est « au commencement, la parole était ». Sous-entendu, elle était déjà là. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette petite phrase c'est une révélation toute puissante. Elle nous apprend qu'en fait, au commencement, donc vous pensez au commencement, vous y êtes. Bon ben, maintenant vous allez encore plus loin, parce que la parole, et on va voir que cette parole, ce logos, c'est Jésus, la parole, elle était déjà là. Donc, bien avant le commencement, il n'y a pas eu un moment où Jésus a été créé. Bien avant le commencement, si on regardait bien, il était déjà là depuis on ne sait pas combien de temps. Autrement dit, il est éternel, dans l'éternité passée. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Là, on voit clairement une référence à Dieu le Père, à l'intimité qu'il y avait. Le mot « avec », c'est le mot « pros » qui a une dynamique pour dire qu'il y avait une relation. La parole était avec Dieu. Le logos était avec Dieu le Père et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ était avec le Père et Jésus-Christ est Dieu, Dieu le Fils. Pour savoir si un groupe qui vous prodigue un enseignement est une secte ou pas, un des tests clés, c'est de savoir ce qu'ils font de Christ, de Jésus. Est-ce qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu ou est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas ? Il y avait une ancienne hérésie qu'on appelait l'arianisme. Alors, ce n'était pas parce que c'était à l'Ariane, à Nice, mais c'était de penser qu'en fait, que Jésus n'était pas Dieu, ou s'il était Dieu, il était un petit Dieu. Et cette fausse doctrine, cette fausse conception de la réalité spirituelle, de la réalité divine, ça a été repris par les témoins de Jéhovah. Et lorsque vous leur parlez, ou lorsqu'ils viennent vous parler, dans leur texte, ils disent « la parole existait » ou « la parole était là », « la parole était avec Dieu » et « la parole était un Dieu ». Alors une bonne réfutation, c'est de leur demander « je connais Dieu, mais qu'est-ce que un Dieu avec un petit dé ? Qu'est-ce qu'un petit Dieu ? Quels sont les attributs d'un petit Dieu ? Est-ce que vous êtes un petit Dieu ?» Et en fait, c'est ils essayent de baser cela sur le texte original dans lequel il n'est pas dit qu'il n'y a pas d'article défini. La parole était, il n'est pas dit était le Dieu, mais la parole était Dieu. Mais en fait, les érudits qui connaissent vraiment le grec disent que c'est normal qu'on n'ait pas l'article défini, et c'est simplement pour dire que Jésus n'était pas la divinité à lui tout seul, parce que Dieu, c'est un Dieu en trois personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour justifier cette fausse traduction du texte biblique, ils ont essayé de trouver des soi-disant érudits qui seraient d'accord avec cette version. Et je cherche le passage, oui. Il cite, donc l'organisation s'appelle la Tour de Garde. Elle était basée à Brooklyn. Ils avaient un immeuble gigantesque, un gratte-ciel à Brooklyn, qu'ils ont dû vendre pour financer les avocats dans les affaires de pédophilie qui leur tombent dessus en ce moment. Mais cette tour de garde, elle disait que le docteur Manti, un érudit du grec, était d'accord avec eux. Le seul problème, c'est que cet auteur leur a répondu en disant « Ce n'est nullement de la véritable érudition ni raisonnable que de traduire Jean 1.1 « La parole était un Dieu ». Mais de tous les érudits, de tous les spécialistes du grec, autant que je le sache, aucun n'a jamais traduit cette construction en disant « un Dieu ». Et il a donc appelé cela une traduction vastement fausse. Et j'ai donc il y a la source de ce docteur qu'ils essayaient de docteur en grec qu'ils essayaient de mettre pour justifier leur position pour dire qu'il y avait pour eux il y a Dieu le Père qui est Jéhovah et après Jésus c'est qu'un petit Dieu. Ils se le sont pris à la figure. Mais ça n'empêche pas ces personnes d'exercer beaucoup de zèle, et on comprend mieux pourquoi ils sont là dans les rues à vendre de la littérature, de la fausse littérature, des fausses interprétations. C'est parce que, en fait, dans leur compréhension de la Bible, il y aura 144 000 élus, et que pour être parmi ces élus, il faut être parmi les 144 000 qui auront le plus fait de prédication, ceux qui ont fait le plus d'heures dans la rue. Et donc, ils ont un grand zèle. Et c'est vrai que ils font pour l'erreur ce que beaucoup d'entre nous ne font pas pour la vérité. Pour beaucoup de chrétiens, la foi, c'est quelque chose de personnel. On ne va pas en parler parce que ça fâche. On peut parler des gilets jaunes, ça fâche aussi, mais ça, on en parle sans arrêt en boucle sur BFM TV et CNews, donc ça, on peut en parler. Mais de parler de sa foi, non, on ne le fait pas. Au commencement, la parole existait déjà, elle était là. Donc il y a l'éternité de Dieu, de Jésus. La parole était avec Dieu, l'intimité de Jésus avec le Père. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc il y a une répétition. Si on avait manqué la première version, Jean va rappeler les choses. Où il les répète d'une façon différente, mais il veut laisser aucun doute. Elle était au commencement avec Dieu. Puis il parle de Dieu, de Jésus comme Dieu créateur. Tout a été fait par elle, c'est clair. Tout ce qui existe a été fait par Christ, Jésus-Christ. D'autres disent que Dieu le Père est le créateur, mais que Jésus c'est l'agent de la création. Ici c'est très clair, tout a été fait par elle. Et si vous avez raté ça, Jean répète. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il veut que ce soit clair. Il veut vraiment nous faire comprendre. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ce Dieu créateur, ce Jésus créateur, il a créé la vie et il a créé la lumière. Et en fait, c'est difficile à admettre, mais si on a des parents, si on a des amis qui ne reconnaissent pas en Christ leur Seigneur, leur Sauveur, ces gens, ces êtres chers, sont dans les ténèbres. Ces gens sont dans la mort. On verra comment Jésus explique à Nicodème qu'il faut naître d'en haut, qu'il faut naître de nouveau. Nous vivons au milieu de morts vivants. Tous les gens que nous, des fois, nous envions, avec qui nous aimons avoir des bonnes relations, et c'est tant mieux. On ne veut pas être en combat avec eux, on veut les attirer dans la lumière. Dans la lumière. Encore une fois, la lumière, c'est... et les ténèbres, c'est des concepts très simples et en même temps très difficiles à définir. Quand vous entrez dans une chambre, dans une pièce qui fait nuit, tout est noir, ou en grande partie noir. Il y a toujours un peu de lumière résiduelle dans notre monde maintenant. Mais la question à se poser, c'est que lorsque je mets l'interrupteur pour allumer la lumière, où est-ce que s'en vont les ténèbres? Où est-ce que fuit l'obscurité? Est-ce que vous avez déjà regardé pour voir si elle ne restait pas sous le lit? Elle allait vite se tapir sous le lit, je plaisante bien sûr, mais les deux sont opposés. Et ce qui est remarquable, c'est qu'un tout petit peu de lumière bat les ténèbres, bat l'obscurité. C'est pour ça que la nuit, des fois, vous utilisez la lumière de votre portable pour y voir un peu plus clair. C'est aussi, ça nous parle qu'en fait, nous, Jésus va nous dire que nous sommes la lumière du monde. La lumière, Jésus, c'est la vraie lumière qui éclaire le monde, mais nous avons été, parce que nous avons reçu cette lumière, nous pouvons briller dans les ténèbres. Et nous pouvons faire disparaître un peu les ténèbres. Notre témoignage, notre vie, les vérités que nous annonçons, tout ça, ça fait reculer les ténèbres. Cette lumière, donc il parle, là il introduit Jean-Baptiste, on va y revenir dans la suite du chapitre. Juste avant ça, la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Les ténèbres ne se sont pas réjouies en disant « Oui, enfin, on a la vérité, maintenant on peut croire qu'il y a un Dieu qui nous aime. » Non, les ténèbres sont restées les ténèbres. Et puis, il y a ce Jean, dont ce n'est pas Jean l'évangéliste qui écrit ce texte sous la dictée du Saint-Esprit, mais c'est Jean-Baptiste, celui qui baptisait dans le baptême de repentance. « Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il vint comme témoin. » pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'est un mot clé aussi dans l'évangile de Jean, l'idée de témoignage. Témoignage. Dire ce qu'on a vu. Dire comment on a été touché par notre foi. Quand on regarde un peu de plus près la vie de Jean l'évangéliste, on s'aperçoit qu'en fait il était le fils de Zébédée, un riche propriétaire d'une entreprise de pêche sur le lac de Galilée. On voit par endroits qu'il avait, avec son frère Jacques, ils avaient, on dirait aujourd'hui, une grande gueule. Parlaient très fort, ils étaient appelés les fils du tonnerre, ils pouvaient crier très fort, ils voulaient appeler la foudre pour tomber sur des gens qui n'étaient pas de leur groupe. Et cet homme qui était si plein de colère, d'énergie, souvent mal guidé, il est devenu l'apôtre de l'amour. À la fin, quand il venait dans des congrégations, il appelait les chrétiens « mes petits-enfants ». Et il leur disait « mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres, ayez plein d'amour les uns pour les autres ». Cet homme qu'on qualifierait aujourd'hui de sale enfant gâté est devenu au contact de Jésus, qu'il a connu, qu'il a vu, au contact de sa vie, ou par l'intermédiaire d'années de vie au service de Christ, il est devenu l'apôtre de l'amour. Et ça, ça nous rappelle que Jésus non seulement se révèle, il s'impose à nos esprits, à nos vies, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous transforme. Parce qu'il pourrait être tout puissant et être la vérité et tout ça, mais tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Avant ça, ça c'est le verset 12, Jean donc, il est clair que ce n'était pas la lumière, ce n'était pas lui. C'est très important aussi, lorsque les gens ont tendance à vous mettre sur un piédestal parce que vous avez prié pour eux et que vous avez été guéri, ou vous avez prié pour eux, les conditions se sont améliorées, ou ils vous voient enseigner la parole, ils pensent que vous êtes un grand homme de Dieu. Non, la réalité, c'est que nous sommes tous des pécheurs pardonnés et qu'il ne faut jamais toucher à la gloire de Dieu. Si on vous dit oh, « vous êtes trop gentil, vous avez toujours un mot d'encouragement », ne dites pas « oui, je sais ». Non, vous dites « c'est pas moi, ça c'est Jésus en moi ». Rendre témoignage de la vérité que tout ce qui est bon en nous, ça ne vient pas de notre nature, mais ça vient de la nature de Jésus qui agit à travers nous. Et Jean-Baptiste était un grand prophète, c'était un homme qui disait qu'il n'était pas digne de délier les courroies de celui qui venait après lui. Il y avait cette humilité dès que vous commencez, et c'est facile, parce que notre vieille nature est là qui dit « oui, c'est vrai, après tout, je suis gentil avec les gens. C'est vrai que je me soucie d'eux, oui. » Non, 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 non. La lumière, elle est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Il est donné à chaque homme de réaliser que Dieu existe par deux choses. La première chose, c'est la création qui nous entoure. Souvent, nous, vivant à notre siècle, on a tendance à voir la création avec les choses créées par l'homme. On voit toujours, il y a toujours un peu de pollution humaine. Mais lorsqu'on voit la nature à l'état pur, sans ligne à haute tension, sans rayures dans le ciel des jumbo jets, etc., on est aussi émerveillé. Ça, c'est la première chose. La création du monde nous dit qu'il y a un Dieu. Le fait que notre planète se trouve à telle distance du Soleil, pas plus proche, pas plus loin, alors on peut dire, bien sûr, c'est un coup de bol, et qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas eu ce bol, cette chance, et qu'ils sont tous cramés ou qu'ils sont tous gelés. Tout ça, ça parle d'un Dieu qui a fait l'ingénierie de notre monde. Et la deuxième chose qui dit à chaque être humain qu'il y a un Dieu, c'est notre conscience morale. On a tous la conviction qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, parce qu'il y a des choses bien et des choses qui sont mal, mauvaises. Ces deux éléments, ça, c'est la lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout être humain. Cette lumière, elle était dans le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Ça peut vouloir dire qu'en fait Dieu s'est incarné dans la race humaine et que la race humaine, pour la plus grande part, l'a rejetée. Ou ça peut être plus concentré sur le peuple juif. Dans les deux cas, c'est vrai. Elle est venue, cette lumière, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La grande question, c'est est-ce que j'accepte la révélation de Dieu telle qu'elle est faite dans la Bible par la personne de Jésus-Christ ? Si je reçois, si je crois en son nom, croire au nom de quelque chose, c'est croire non seulement à la personne, mais à tout ce qu'elle représente, à tout son caractère, à toute sa révélation. Elle a donné le droit ou l'autorité ou le privilège de devenir enfant de Dieu. Si vous voulez être enfant de Dieu, il faut accepter dans votre cœur Jésus-Christ. Et ces gens, ils sont nés de nouveau ou nés d'en haut, comme on verra dans Jean 3, 16, dans le chapitre 3 de Jean. Ils ne sont pas nés du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Si vous trouvez que c'est injuste qu'il y en ait qui soient nés de Dieu comme ça, c'est que Dieu a déjà mis dans votre cœur le désir d'être, de lui appartenir. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'accepter, de reconnaître que Jésus-Christ est la parole. Verset 14, « La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Là, Jean fait allusion, fait référence au temps qu'il a passé avec Jésus-Christ. Cette parole qui s'est faite homme, c'est l'incarnation, c'est le mystère de l'incarnation. Elle a habité. Le mot « habité », ce serait mieux traduit par « elle a campé ». C'est le mot qui était utilisé pour le tabernacle. La parole s'est faite homme et elle nous a donné le privilège de l'avoir parmi nous. Et cette parole, elle est pleine de grâce et de vérité. La grâce, c'est cet amour qu'on ne mérite pas. La vérité, qu'est-ce que la vérité, disait Pilate, Ponce Pilate. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Mais la vérité, c'est tout ce qui est à l'opposé de Satan, qui est le père du mensonge, l'auteur du mensonge et le père de tous les mensonges. Nous avons contemplé sa gloire. Nous l'avons regardé intensément. Nous l'avons scruté. Nous l'avons épié. Nous l'avons regardé avec des grands yeux. Et tout ce que Jean a vu en Jésus-Christ, il voyait Dieu, il voyait la gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors là aussi, les gens disent, voyez, il est dit qu'il est le Fils unique venu du Père, donc c'est le Père qui est vraiment Dieu et lui c'est juste un Fils. Mais l'idée du Fils unique, monogénès, Ça insiste sur les qualités uniques de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est né, c'était le Fils de Dieu, et non, de tout temps, encore une fois, je vous renvoie, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage en s'écriant, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Là, il faut réfléchir. Là. Il est venu après, mais il était avant moi parce qu'il était déjà là. Oui. Il faut se garder, et beaucoup de non-croyants font l'erreur de penser que Jésus est arrivé à Noël. Alors, indépendamment de la date, ils pensent que Jésus a commencé à l'incarnation. Non, encore une fois, Jésus, au commencement, il était déjà là. Et si vous pensez qu'il est arrivé à un moment, ben vous allez à ce moment-là et vous vous dites, ben, à ce moment-là, il était déjà là. Et par récurrence, pour employer un terme mathématique, vous apercevez qu'il couvre l'éternité. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Plénitude, c'est toute sa richesse infinie. Il est dit dans Colossiens qu'en Jésus-Christ habitait la plénitude de Dieu. Tout ce que le Père peut être, Jésus l'est aussi. Il est complètement plein de divinité, de la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis nous avons tous reçu de sa plénitude. Et là, je crois que le tout, ça parle de tous les hommes. Tous nous sommes au bénéfice d'un Dieu plein d'amour, d'un Dieu qui nous donne le soleil, qui brille sur les méchants comme sur les bons. Et l'apôtre de l'amour va nous rappeler au Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, tout l'univers, tous les hommes plutôt, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons reçu grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Une bonne idée, si vous allez faire on va pique-niquer ici, mais peut-être qu'il y en a qui iront à la plage après, au bord du rivage, vous voyez les vagues. Il n'y a pas une vague qui arrive et puis après c'est fini, il n'y en a plus. C'est un mouvement de flux, de reflux, vague sur vague. La grâce, on la reçoit comme ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas une seule fois puis c'est fini. C'est grâce après grâce. C'est renouvelé. On peut lui faire confiance. Il fait un contraste entre la loi et la grâce et la vérité. Verset 17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Moïse a reçu les tablettes, les 10 commandements et toutes les 630 prescriptions qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et la loi est une bonne chose. Mais c'était l'ancienne alliance. On pouvait être sauvé si on obéissait à la loi. La grâce de Christ, la vérité, sont venues à travers Jésus-Christ. Et c'est là la première fois que Jean veut nous faire réagir. Parce que moi, j'ai fait déjà l'analogie depuis le début. Mais jusqu'à présent, c'était cette parole mystérieuse. Et puis là, il donne la clé, la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et puis il explique, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Alors c'est vrai que certains ont des problèmes avec ce passage, personne n'a jamais vu Christ, il y a plusieurs épisodes dans l'Ancien Testament où on voit que certaines personnes voient Dieu, disent « je vais mourir, j'ai vu Dieu ». Mais Dieu est esprit, donc on ne peut pas le voir. Quand on voit Dieu, ou qu'on dit qu'on a vu Dieu, c'est qu'on a vu une manifestation. Souvent, c'est l'ange de l'Éternel dont on parle dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. C'est l'idée que on n'a pas vu vraiment Dieu. Même si on a Moïse, Dieu lui a dit de se cacher et qu'il allait lui laisser voir son dos. Après, il a dû mettre un voile sur son visage parce qu'il avait été tellement ébloui qu'il y avait une espèce de gloire sur son propre visage. Il ne voulait pas attirer l'attention sur cela. Donc il mettait un voile et tout le monde lui demandait « Mais ça, pourquoi tu mets ce voile ?» Et donc il disait « C'est parce que j'ai la gloire sous le voile. » Non, je plaisante. Personne n'a jamais vu Dieu, et encore une fois, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le mot de faire connaître, c'est le mot qui nous donne le mot exégèse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, c'est le fait d'expliquer le texte biblique. On dit faire l'exégèse, c'est-à-dire faire sortir la vérité de quelque chose. Et comme la réponse de Jésus à Philippe, tu dis, montre-nous le Père, comment se fait-il que ça fait des années que tu es avec moi, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez connaître Jésus-Christ. Jésus dira plus loin, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qu'on aurait pu dire à notre interlocuteur hier, mais il était si loin de pouvoir raisonner avec nous que c'était décourageant. Mais Jésus nous fait connaître le Père. Si vous voulez savoir comment est le Père, qui est invisible, il faut voir le Fils qui s'est montré à nous, qui est venu l'expliquer. Et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette étude, c'est voir comment le Fils a expliqué le Père. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce prologue. On se sent tout petit pour parler de ces choses, pour essayer d'expliquer ou de demander, donner quelques pistes de compréhension, Seigneur. Mais c'est ton esprit qui nous permet de comprendre le Fils, qui nous explique le Père, Seigneur. Sois à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies. Et je vais vous demander, pendant qu'on est dans cette attitude de prière, s'il y en a qui n'ont pas encore reçu le Fils, vous pouvez le faire maintenant en le signifiant, en levant la main, pour dire oui, je veux recevoir ce Fils unique, cette parole qui était déjà là au commencement, qui était avec Dieu le Père et qui était Dieu. Ça, c'est ce qui va changer votre vie complètement, qui va vous permettre de connaître Dieu, de pouvoir être transformé par lui comme Jean l'a été. Seigneur, tu connais les cœurs. Je te prie pour que tu répondes à ceux qui ont indiqué qu'ils voulaient venir à toi, que tu réponds à leurs prières. Sois à l'œuvre dans leur cœur, sois à l'œuvre dans nos cœurs, sois à l'œuvre dans mon cœur, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ce Logos. Merci, Seigneur, pour qui tu es et de ce que tu te laisses approcher, Seigneur. Tu t'es le premier approché de nous alors que nous étions encore pécheurs et Seigneur, tu veux que nous te connaissions, que nous te glorifions, que nous vivions pour toi. C'est notre prière, Seigneur. Sois glorifié parmi nous. Amen.